7h de l'après-midi.
Merci d'avoir choisi la radio HDR. Il est 17h, heure de Paris, 16h en temps universel. Vos programmes pour cette fin de journée sur votre radio. À 18h, c'est Edutainment avec Bachir. À 19h, Michel Jules et ses années de jazz. À 20h, Cafro avec Mister Omix. Puis de 22h à minuit, c'est Bass Jam Radio Show. Et la nuit sur HDR, c'est la playlist des Nocturnes. Très bonne fin d'après-midi à tous. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Waiting for us here.
I have something to tell you.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes HDR, le mix des cultures. Que vous nous écoutez dans votre voiture sur le 99.1 ou à la maison sur votre ordi via le www.radiohdr.net. Chaque mercredi à 17h, c'est Campus Mag, votre émission dédiée à la vie étudiante. Si vous suivez notre page Facebook Campus Mag, vous êtes déjà informé du programme qui va suivre car en effet, exceptionnellement cette semaine, il n'y aura pas de Campus Mag en live depuis les studios des Hauts-de-Rouen. En ce mercredi 4 décembre, mais rassurez-vous, j'ai le plaisir de vous proposer tout de même un contenu de qualité pour cette semaine avec la rediffusion d'une spéciale asso humanitaire de l'UFR Santé. Donc aujourd'hui et demain, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir quatre associations présentes sur le campus Martinville. En tout cas, pour ce premier épisode, place aux associations Ortogo, puis suivra Solidar India avec quelques-uns de leurs membres qui vous présentent leurs structures ainsi que leurs associations respectives. Très bonne écoute pour ce Campus Mag aujourd'hui.
Même pas peur, même pas peur.
bord de l'abîme, en défiant la mort. Puisqu'aura l'ultime, on dansera encore. On dansera encore, on dansera encore.
Nous sommes de retour ici au sein de cette UFR Santé au pôle Martinville, juste à côté, à quelques encablures du CHU de Rouen, pour parler d'associations étudiantes, bien évidemment, associations humanitaires, en compagnie de trois charmantes demoiselles d'Ortogo, oui, qui sont dans l'humanitaire. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Merci, bonjour.
Alors il y a, je vais faire dans l'ordre, Valentine Simon.
Bonjour,
oui, c'est
Valentine.
Moi. Donc
bonjour.
Tu es coprésidente.
C'est ça.
Ensuite, il y a Marie Van Acker, coordinatrice Interpol.
Exactement.
Et pour la troisième, Colline Gréal, coprésidente également.
Bonjour.
D'Ortogo. Merci en tout cas par avance d'être venue sur le plateau et d'accepter un peu cette invitation. Alors avant de parler des actions et puis du voyage que vous organisez toute l'année en lien évidemment avec le Togo, comme l'indique le nom de l'association, on va revenir sur la présentation tout simplement de l'association. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Ortogo ?
Alors Ortogo Humanitaire, donc c'est une association actuellement de 15 étudiantes en orthophonie, donc de première, deuxième et troisième année. Donc elle a été créée en 2013 par 4 étudiantes en orthophonie qui sont actuellement diplômées. Et en fait, nos actions, elles portent donc au Togo, à Lomé. On intervient pour notamment promouvoir l'orthophonie, sensibiliser et apporter des aides sur place, aussi bien au niveau paramédical, médical, social. Donc voilà.
Au niveau des étudiants, étudiantes qui composent ce bureau, j'imagine qu'il y a différents cursus, différentes années pour pouvoir justement faire perdurer cette association.
Alors oui, comme je vous disais, donc il y a des étudiants de première, deuxième et troisième année. Donc en troisième année, les étudiantes constituent, souvent on est des filles, donc j'ai dit étudiantes, constituent le bureau, donc la présidence, le secrétariat et la trésorerie. En deuxième année, les filles s'occupent surtout de tout ce qui est subvention et récolte de matériel. Et en première année, c'est plus ce qui est événementiel et communication sur nos réseaux.
Alors justement, on va arriver, au point important. Ce sont bien sûr les activités qui permettent à vos actions de perdurer, mais aussi de pouvoir organiser ce voyage. Alors le nerf de la guerre, évidemment, c'est la collecte de fonds. Personne n'y échappe. C'est le cas, j'imagine, pour Ortogo. Alors comment ça se passe pour la collecte de fonds et quelles sont les activités, du moins quelques-uns des temps forts, que vous organisez tout au long de cette année?
Alors, on organise chaque année des ventes de gâteaux, en général deux fois par an, qui se déroule au sein de l'UFR Santé pendant une journée, et nous préparons quelques mets qui sont vendus aux étudiants de toute la faculté. Nous participons aussi à des week-ends de solidarité, que ce soit dans notre cursus en orthophonie ou avec d'autres corps de métier, médecins, pharmaciens. Et nous participons à ces événements pour nous former sur les questions de solidarité internationale, sur la gestion d'une association et aussi sur notre métier en général.
Donc en effet, planning assez chargé. J'imagine pas évidemment que des ventes de gâteaux, ça serait un peu réducteur de parler que de ça. Il y a aussi des actions qui sont faites aussi toujours dans le domaine universitaire, mais en extérieur. On peut parler par exemple des azimuts, qui est
exactement,
aussi un des
oui.
autres temps forts. alors ?
Oui, oui, on est régulièrement invité en fait chaque année pour participer aux Azimuts où nous tenons un stand. On a aussi participé à l'Armada cette année où nous avons présenté l'association Sur les quais. On organise chaque année des vide-greniers au mois de mars. Et cette année, nous avons organisé quelques soirées au moment de Noël. Emballer des papiers cadeaux chez Habitat notamment, qui collabore avec nous depuis quelques années. Nous avons participé à la nuit étudiante au musée des Beaux-Arts. Récemment, nous avons participé au Bulky Games, qui était un événement, une course d'obstacles au lac de Pose, à l'Eripose. Et nous organisons des soirées étudiantes.
En tout cas, voilà, très très chargé, mais ça n'est pas encore fini, puisque là, on parle évidemment d'activités physiques. On peut être en lien direct avec des membres de l'association, mais il y a aussi toute la partie internet, où là aussi, il y a possibilité d'une certaine manière de pouvoir aider l'association.
Tout à fait. Alors, on dispose de plusieurs moyens. On est beaucoup présents sur les réseaux sociaux. Et cette année, on a développé un partenariat, si on peut dire, avec Lilo, qui est une plateforme en ligne sur laquelle on peut, grâce à nos recherches internet, accumuler un certain nombre de gouttes et reverser ces gouttes à une association. Et l'équivalent de ces gouttes va permettre à l'association d'avoir de l'argent en fonction du nombre de gouttes qu'ils ont réussi à recueillir. Donc on est présent sur Lilo et on essaie de partager ça à nos proches, aux étudiants en orthophonie qui sont tous sur la plateforme Lilo et qui nous donnent généreusement leurs gouttes. On fait aussi tous les ans une campagne Kiwi sur laquelle on crée des designs de t-shirts, de mugs, de cahiers et qui nous permet de récolter des sous en contrepartie de quoi les gens qui nous soutiennent reçoivent un t-shirt, un stylo, un carnet, un mug à notre effigie avec le logo d'Orthogo et un petit design que nous on crée par nos petites mains qui sont très douées. Et la dernière chose, oui, sur internet, c'est une campagne participative sur Kiss Kiss Bank Bank, sur laquelle chaque année on expose en vidéo et avec un beau texte ce qu'on va faire chaque année en se rendant au Togo au mois de juillet. Et les gens peuvent également nous donner de l'argent, en contrepartie de quoi ils recevront un petit souvenir qu'on achètera au Togo et qui leur sera envoyé en rentrant en France.
Parce qu'en effet, c'est une collecte de fonds qui est assez importante, puisque à la clé il y a un voyage, donc ça comprend évidemment les billets d'avion, le matériel, on y reviendra dans quelques instants. Concernant justement ce voyage, puisque c'est un petit peu le résultat final du travail que vous menez depuis le début de la rentrée universitaire, alors que ce soit vous évidemment pour, si je peux dire, votre promo, entre guillemets, mais ça continue évidemment avec les autres étudiantes pour les années à venir, y compris cette année-là. Alors justement, ce voyage, avant de parler sur place, de savoir un petit peu comment ça s'est passé et avoir quelques anecdotes de vos expériences respectives, de votre ressenti, comment on organise, puisque c'est un projet qui reste quand même assez lourd, déjà avant d'arriver au point matériel, sur tout simplement comment on organise un voyage pour aller au Togo dans le cadre humanitaire.
Alors effectivement, le voyage demande beaucoup d'organisation. En général, ce sont les deuxièmes années qui partent au Togo pour vivre l'expérience et que ce soit beaucoup plus concret aussi pour l'année d'après, qui est le bureau. En fait, on commence à sélectionner les personnes qui souhaitent partir au mois de octobre, novembre. On achète les billets, alors c'est chaque personne qui achète les billets lui-même, donc ça engendre un coût important, au mois de janvier. Et puis ensuite, on va commencer les démarches de visa, parce qu'il faut effectivement demander un accord à l'ambassade, un visa donc en plus des vaccins qui sont obligatoires pour partir, notamment le paludisme. Ensuite, il va falloir guider les filles pour avoir des demandes d'hébergement de la part du Togo, des attestations en fait qui garantissent l'endroit où elles vont vivre pendant trois semaines. Et puis ensuite, on va commencer à entrer en contact avec nos partenaires pour leur demander de façon spécifique de quoi est-ce qu'ils ont besoin sur place. Et on va sélectionner le matériel en fonction de la nécessité au Togo.
j'ai fait une petite erreur, il n'y a pas d'achat de matériel, c'est surtout du don de matériel. Alors comment ça se passe au niveau du matériel? Est-ce que, comme tu l'as dit à l'instant, il y a des demandes forcément qui se font depuis le lieu où vous allez opérer, mais j'imagine qu'il y a aussi des demandes ou des recherches qui se font bien évidemment ici en France.
Alors pour le matériel non spécifique, on va se tourner vers les écoles, notamment pour les manuels que nous sélectionnons ensuite pour éviter qu'il y ait un biais culturel avec par exemple tout ce qui est animaux domestiques, tout ça qu'il n'y a pas forcément là-bas. On va aussi faire des récoltes de feutres que nous avions menées cette année dans le département d'orthophonie avec les étudiants. On récolte ensuite les dons qui peuvent se présenter de classeurs, de cahiers qui ne sont pas utilisés. Et ensuite, pour le matériel spécifique, on va se tourner vers des prestataires médicaux, notamment pour les audiomètres, les appareils de dépistage auditif et de diagnostic. Tout ce qui va être abaisse-langue, tout ça, on le récolte par le biais des dentistes par exemple, mais tout le matériel médical, on met un point d'honneur à l'acheter nous-mêmes et que ce soit garanti et fiable.
Oui, voilà, qu'il n'y ait aucun danger au niveau sécurité.
Oui, exactement, c'est ça.
Alors ça, c'est au niveau matériel. Après, j'allais dire, il faut aussi pouvoir l'acheminer, puisque ça aussi, c'est un travail. Ça se passe comment? Puisqu'il y a évidemment chacune d'entre vous a ses petites valises, mais il y a aussi tout le matériel à ramener.
Voilà, donc on a la chance dans nos billets d'avion de prendre, d'avoir le droit d'avoir deux valises de 23 kilos par personne, ce qui représente une quantité importante de poids qu'on puisse emmener au Togo. Donc en général, et jusqu'à aujourd'hui, tout le matériel a pu entrer dans les valises. Sinon, on avait déjà réfléchi à prendre un conteneur en plus, mais on n'a jamais eu besoin.
Ça, c'est toute la partie préparation. J'allais dire, le jour J, on prend les valises, on va à l'aéroport. Et puis on arrive au Togo, on arrive à Lomé. Quelles sont vos premières impressions, j'imagine, au-delà évidemment de la différence culturelle, quel est votre premier ressenti lorsque vous foulez vos premiers pas sur le Togo?
Bah alors déjà, quand on arrive, on se rend compte que le sable n'est pas du tout blanc. C'est un sable qui est un peu rouge, donc c'est étonnant. Et on est super bien accueillis par la communauté là-bas. Et en fait, on ne les connaît pas, on a juste échangé avec eux avant de partir. Et quand on arrive là-bas, on se rend compte de leur amicalité, de leur générosité. Ils nous embrassent comme si on les avait connus depuis toujours. C'est ça qui est vraiment impressionnant quand on arrive. Et puis, on est choyé, peu importe l'heure à laquelle on arrive, on va avoir un petit repas qui nous attend à la communauté. On nous installe dans nos chambres. C'est l'idéal.
C'est vraiment un mélange d'excitation et d'anxiété à la fois, parce qu'on a quand même une mission à réaliser qui est conséquente.
Oui, parce qu'on pourrait dire, ah bah oui, ça fait entre guillemets des petites vacances, c'est loin d'être le cas.
Ah, loin d'être le cas.
Alors concernant ce lien justement qui a été noué aussi avec les anciennes promotions d'Ortogo, ça c'est aussi un point d'honneur que vous avez souhaité instituer au sein de cette association, de rester avec le même organisme, les mêmes personnes, pour que justement ces actions puissent aussi perdurer dans le temps et ne pas juste en effet jeter une goutte d'eau dans l'océan et repartir vers d'autres contrées qui seraient peut-être un peu contre-productives au final.
Oui, nos projets, on veut qu'ils soient durables sur place. L'objectif, c'est d'apporter une aide pas ponctuelle, mais qui dure des années. Donc c'est pour ça que depuis 5 ans qu'on intervient là-bas, on va dans les mêmes endroits, notamment à l'école Vivanda, donc pour les enfants sourds, où on amène du matériel scolaire, on amène un financement pour la formation à la langue des signes. Et on va également donc dans la communauté où on est accueilli, il y a un centre de santé à côté que l'on aide aussi durablement chaque année, en faisant évoluer aussi ce qu'il y a besoin d'apporter. Si l'orthophoniste sur place nous dit qu'elle a besoin de tel matériel, on va s'adapter à sa demande pour lui amener ce qu'il lui faut. Par contre, on essaye en parallèle chaque année d'amener quand même de nouveaux projets pour que l'association ne stagne pas, mais avance avec de nouvelles idées. Par exemple, cette année, les filles qui sont parties sont allées dans un orphelinat et ont apporté des jeux et du matériel sur place. C'est un projet qu'on va pérenniser dans les années à venir et c'est des contacts que l'on garde en fait d'année en année.
Juste avant de parler des subventions et ce qui permet justement à cette action de perdurer chaque année avec Ortogo Humanitaire, pour reprendre le titre sur le réseau social Facebook, mais on le redira évidemment aux auditeurs à la fin de cette interview au niveau des contacts. Concernant ces 3 semaines, ça paraît long et j'imagine ça doit paraître très court.
Oui.
À la fois, est-ce que vous vous posiez la question avant de partir de se dire est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire, enfin du moins l'année où vous êtes parti?
Oui, donc nous on est parti en l'été 2018, donc l'année dernière, et c'est vrai qu'on avait peur de ne pas réussir à mener tous nos projets en 3 semaines, parce que comme on vous l'a dit avant, on a plein de projets différents et c'est pas en une journée qu'on mène chaque projet. Il faut plusieurs rendez-vous, il faut rencontrer les partenaires, il faut aller acheter le matériel sur place, il y a plein de choses à faire. Et finalement, 3 semaines, c'est vraiment la durée idéale. Ça nous laisse le temps de bien faire les choses, de voir le début aussi des projets. Par exemple, l'année dernière, on avait fait poser une porte et des grilles sur les fenêtres de l'école. On a pu voir toute cette mise en place, la mise en place des tableaux. Donc, c'est vraiment intéressant de mener le projet jusqu'à la fin, au final.
Évidemment, pareil, comme sur place ici à Rouen, le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent. Et les subventions, les partenariats, comment ça se passe aussi pour que ça puisse perdurer également sur place?
Comme on a dit au début, on a énormément d'actions qu'on mène au sein de l'UFR Santé, également des soirées quiz, mais le plus gros de notre budget, en fait, c'est les subventions qui nous permettent de réaliser nos projets. Et ces subventions, on les doit notamment à la fac et au CROUS avec le FSDIE, le Fonds de Solidarité. Et donc ça, c'est vraiment super important. Ça représente un bon mois où on prépare au mois de février tous les dossiers de subvention, on prépare les commissions pour pouvoir présenter nos projets et les faire adhérer les gens à ce projet-là, et on a un super soutien de leur part tous les ans. Voilà, on essaie de surtout avoir ces subventions-là, et cette année on va également avoir une subvention du Crédit Mutuel. Donc on essaie de développer un peu, on avait tenté aussi d'avoir une subvention auprès de la Fondation EDF cette année, mais ça n'a pas fonctionné, on rentrait pas suffisamment dans les critères, donc on essaie de trouver de nouvelles idées de subvention tous les ans pour essayer de soulager aussi les personnes qui nous donnent tous les ans. On a aussi des aides du département.
Et on vous souhaite évidemment que ces partenaires vous soient bien évidemment fidèles et d'en trouver de nouveaux. Avant de parler des contacts, un mot concernant les projets. Et juste avant, j'allais oublier aussi quand même pour clôturer un petit peu cette partie voyage, on a parlé de la préparation sur place. Puis j'allais dire, on redescend un petit peu sur terre, retour à Paris, à l'aéroport. Puis en Normandie. Qu'est-ce que vous retenez de votre participation et de votre expérience à Lomé, au Togo, durant ces 3 semaines?
Moi, en tout cas, c'est vraiment une expérience très enrichissante. On rencontre plein de gens, on apprend beaucoup. Là, sur place, on a rencontré des orthophonistes, donc ça correspond à notre formation. On a beaucoup échangé, on a pu voir leur manière d'appréhender les pathologies, de prendre en charge. C'est totalement différent au niveau culturel. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant et ça fait beaucoup de nouvelles choses. Et on rentre, on est un peu... Il nous faut un petit temps pour se réadapter à la France et à la manière de vivre ici, au final.
Oui, et puis en rentrant, il faut se réadapter, mais il faut aussi reprendre la vie de l'assaut, c'est-à-dire refaire tout ce qui est contrepartie, renvoyer les dossiers aux subventions et toute cette partie administrative qui revient quand même petit à petit et qui permet de faire la passation aux années suivantes correctement.
Et oui, puisque j'allais dire, même si le voyage est terminé, en tout cas le gros de l'action est terminé, il y a encore du travail à faire à la rentrée, puisque pour préciser, lorsque l'on enregistre cette interview là en ce mois de septembre, il vous reste encore un mois au sein du bureau, et j'allais dire des projets aussi qui se remettent en place. Alors sans trop évidemment en dévoiler, on aura l'occasion de reparler des prochaines actions d'Ortogo pour cette saison 2019-2020. Quelles sont justement vos prochaines activités, vos prochaines actions pour les étudiants qui seront ici présent au sein de cette UFR?
Alors là, au début de l'année, ça a été déjà très intense puisqu'on a fait les Bulky Games il y a 2 semaines. Et on va avoir les ventes de gâteaux qui vont commencer à se remettre en place. On va préparer petit à petit aussi la soirée quiz qui pourra encore avoir lieu une dernière fois cette année. Et petit à petit, on va essayer de trouver aussi d'autres actions et commencer à mettre en place l'organisation pour les papiers cadeaux à Habitat en fin d'année.
On va terminer puisque le temps presse, et puis c'est très bien que généralement au niveau de l'UFR Santé, vous avez des emplois de temps qui sont très, très, très chargés. Je pense à vos sourires que oui, c'est le cas.
Oui, oui. On confirme.
Tout à fait. Donc, pour rappeler ceux qui souhaitent justement vous joindre, je vais vous laisser donner le nom de la page Facebook déjà.
Alors, la page Facebook, c'est Ortogo Humanitaire. Donc, Ortogo, c'est O-R-T-O apostrophe G-O humanitaire. Vous pouvez aussi nous retrouver donc sur Instagram.
C'est le même nom sur Instagram, en fait. Et on a également une page internet sur Wixit qui est disponible à partir de notre page Facebook parce qu'elle n'est pas publique. Donc, à partir de notre page Facebook, on peut retrouver la page internet. On a une chaîne YouTube sur laquelle on publie tous les ans également une vidéo de retour du voyage, des petites vidéos qui montrent un peu comment ça se passe à Lomé, au Togo. Donc, vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne d'Ortogo Humanitaire, pareil que la page Facebook. On a également une adresse mail, Ortogo Humanitaire.
Et vous pouvez nous retrouver du coup sur Lilo, la plateforme dont on vous a parlé, la plateforme de recherche.
Et bien voilà, est-ce que vous avez encore une dernière chose à rajouter ?
On vous remercie d'être venu aujourd'hui à l'UFR Santé pour nous rencontrer.
Et on vous attend nombreux sur nos réseaux sociaux pour nous rejoindre et suivre nos actions.
Au revoir, parce que c'est la dernière fois qu'on pourra vous parler aussi. On est le bureau sortant, donc voilà, on vous suivra de loin.
Avec grand plaisir. Et puis ce sera, j'allais dire, au nouveau,
oui,
à vos remplaçantes, de reprendre le flambeau et puis de nous parler de cette belle association humanitaire. Donc c'était Ortogo Humanitaire, voilà, pour la page Facebook. En tout cas, merci beaucoup Valentine.
Merci.
D'avoir accepté l'interview. Merci beaucoup Marie.
Merci à vous.
Et merci beaucoup Colline.
Pas de quoi.
Et bien voilà, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve d'ici quelques minutes après une courte pause musicale pour parler toujours humanitaire au sein de cette UFR Santé située au pôle Martinville. À tout à l'heure.
Le mix. mix de toute la culture 99.1.
Nous voici de retour au sein de cette UFR Santé. On est bien sûr toujours au pôle Martinville. Cette fois-ci, on va changer de destination. On a parlé Togo il y a quelques instants. Maintenant, on va partir sur un autre continent. On va partir en Inde avec Solidar India. Solidar India Calcutta pour la page Facebook, déjà pour vous rappeler. Mais on aura l'occasion, si vous n'avez pas eu le temps de noter, de vous rappeler la page Facebook et les contacts de l'asso. En tout cas, je suis avec deux des représentants de Solidar India. Je suis en présence déjà du président, Théo Hermite.
Bonjour.
Bonjour Théo.
Bonjour.
Et puis Deva Candas, chargée de communication. Bonjour Eva.
Bonjour.
Pour nous parler donc de cette association Solidar India, oui, qui officie dans l'humanitaire, comme ce sera le cas des associations, de l'ensemble des assos que nous allons interviewer dans le courant de cette spéciale Martinville. Mais évidemment, quelques spécificités pour chaque association. Mais en tout cas, la question qui va revenir et qui va être forcément récurrente pour ceux qui ne vous connaissent pas, puisque c'est la première fois qu'on a l'occasion de vous interviewer. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association en quelques mots ?
En fait, Solidar India, c'est une association d'étudiants en médecine. On se la redonne entre deuxième année chaque année. Donc tous les ans, l'équipe change. C'est une association qui officie en Inde, à Calcutta plus précisément. Pourquoi Calcutta ? Parce que Calcutta, c'est une ville extrêmement pauvre. L'Inde, ils sont extrêmement peuplés. Il y a plein de problèmes, notamment l'eau, l'éducation, les bidonvilles, etc. Que dire d'autre ?
C'est une association qui existe depuis maintenant 10 ans.
Ouais.
Donc elle a été créée en 2008, donc même plus de 10 ans maintenant. Et donc comme l'a dit Théo, donc chaque année l'équipe change. J'ai toujours des étudiants en deuxième année de médecine. On est 7 à partir. Donc après on vous expliquera comment ça se passera pour rentrer dans l'association. Mais on est toujours une équipe de 6 ou 7, il me semble. Donc voilà, donc ça fait 10 ans. On va en Inde, donc à Calcutta. Calcutta, troisième ville la plus peuplée d'Inde, il me semble. Et c'est une ville très très pauvre, donc on agit là-bas depuis maintenant 10 ans.
Et j'imagine un travail forcément énorme sur le terrain. On reviendra évidemment sur la présentation de ce voyage et savoir comment ça s'est passé en amont, pendant et après. Ouais. Mais auparavant, j'allais dire, comme toute association, évidemment, il y a des recherches de financement, mais aussi pour parler, pour communiquer sur vos actions. Donc j'imagine de nombreuses activités que vous organisez tout au long de l'année universitaire. Mais quelles sont-elles ?
Alors, on a commencé par des ventes de gâteaux. On a fait plusieurs ventes de gâteaux au sein de l'université. Donc on vendait des gâteaux dans le hall. Donc ça a nécessité beaucoup de préparation. C'est des nuits à faire des crêpes. Mais au final, on est plutôt content parce que les gens jouent vraiment le jeu et quand ils savent que c'est pour une association, ils donnent beaucoup. Donc ça, c'est vraiment important et on remercie beaucoup les personnes qui ont pu participer à ça. On a organisé des soirées aussi dans les boîtes de nuit, donc notamment le Spot Club.
Yes, c'est ça.
Notamment le Spot Club, on a fait deux soirées au Spot Club.
Des soirées à thème, forcément en rapport avec l'Inde. On avait vraiment une soirée fluo, par exemple. C'était vachement sympa.
Puis on a fait une soirée aussi pour le commencement de l'Armada. Donc cette année, c'est une année assez particulière parce qu'il y a eu l'Armada à Rouen. Donc du coup, on a fait une soirée le jour de l'ouverture de l'Armada, donc aussi au Spot Club.
On reste beaucoup sur le milieu étudiant, mais on travaille aussi avec le milieu scolaire. Par exemple, on fait des bols de riz dans les collèges et lycées privés. Et on ne fait pas que récolter de l'argent, on sensibilise aussi les élèves en faisant, parce qu'on fait des présentations de notre association, on les sensibilise à la cause humanitaire et plus particulièrement Solidar India, du coup, vu que c'est notre association. Ouais. Pendant ces présentations-là, ce qu'on a voulu faire aussi, nous, cette année, c'est créer un lien entre les élèves en France et les élèves en Inde. Du coup, on avait demandé aux élèves français de faire des dessins, écrire leur journée, d'écrire un peu leur quotidien, qu'on a donné aux élèves indiens. Et eux, ils ont fait des mêmes retours qu'on redonne aux élèves français pour créer une espèce de lien, pour que ce soit un peu quelque chose de matériel, pas que en mode je paie la cantine et une partie va là-bas. Savoir qu'il y a aussi un échange, une espèce d'échange indirect qui est vraiment pas mal, je trouve.
Ouais, c'était une bonne expérience.
Donc, comme tu l'as dit, milieu scolaire, il y a aussi sportif.
Ouais, exactement. On a aidé à l'organisation d'un raid sportif à la communauté de communes de Lyon-Sandel. Du coup, on a géré. Il y en a certains qui ont couru, qui ont fait le raid pour faire les chefs d'équipe. Mais on a aussi géré tout ce qui est logistique, tout ce qui est nourriture, couchage, etc. Du coup, on a pas mal aidé. À la fin, une partie des fonds récoltés durant ce raid nous a été reversée pour l'association.
Donc, des membres qui ont mouillé le maillot. Et puis, autre action pour revenir au niveau universitaire, alors pas ici qu'au sein de cette UFR Santé, il y a aussi Mosaic qui justement ouvre cette fenêtre sur l'international. Et j'imagine que Solidar India a participé à cette opération.
On a participé à cette opération, donc on a donné, on avait plusieurs photos. D'ailleurs, apparemment, nos photos étaient super belles, d'après les gens. Donc, on était vraiment très fiers de voir nos photos publiées. On a pu les voir dans le hall d'université. On a pu voir que l'équipe de l'année dernière, parce que du coup, c'était les photos, vu qu'on n'était pas encore parti de ceux de l'année dernière.
De l'édition précédente.
Exactement. Donc, on a pu voir que, enfin, ça nous a donné encore plus envie d'y aller. Donc, on a été vraiment très fiers de participer à cette exposition.
Ça nous a permis aussi de nous faire connaître un peu plus dans les autres campus, par exemple au campus Pasteur ou à Mont-Saint-Aignan, on n'est pas forcément connu. Et ces photos-là ont permis aux gens de savoir qui on était. D'ailleurs, on a reçu des messages de certaines personnes qui nous disaient que notre projet était bien. Donc, c'était cool, c'était vraiment sympa.
Oui, parce que malgré ce projet qui est quand même assez lourd à porter, puisque c'est un voyage justement dans un pays étranger, et là, à quelques milliers de kilomètres, en plus de vos études qui, je le rappelle, au niveau de la santé, que ce soit médecine ou pharmacie, on ne va pas faire évidemment de concurrence. ce sont des cursus qui sont assez lourds en termes d'horaire.
C'est sûr que l'association, c'est très prenant. C'est vraiment un travail sur toute l'année. Des fois, il y a des périodes où il y a beaucoup d'événements, donc c'est très compliqué. Et des périodes un peu plus calmes où il faut quand même gérer tout ce qui est administratif et commencer à préparer le voyage, etc. Et d'ailleurs, par exemple, surtout en communication, notre objectif cette année avait été de nous centrer sur Instagram et Facebook parce qu'on s'était rendu compte qu'on était peu connu dessus, donc on a centré nos principaux efforts de communication sur ça.
On sait que beaucoup de gens maintenant vont sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Notre Instagram n'était pas très actif, donc on a vraiment voulu vraiment se faire connaître par le biais d'Instagram, parce qu'en ce moment, tous les étudiants vont beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'était notre objectif et je pense qu'on l'a plutôt atteint, donc on est assez fiers de ça. Par rapport à nos cours, c'est vrai que ça a été très difficile parce que ça nous prend du temps, mais après ça fait partie de notre engagement, donc on savait dès le début que ça allait être comme ça. Les anciens nous avaient prévenu, c'était l'une des conditions pour faire partie de l'asso. Est-ce qu'on était prêt à tout donner? Et on l'a fait. Après, on a essayé de gérer pendant les périodes d'examen surtout.
Ouais.
Ça a été compliqué, mais au final, moi, je ne regrette pas d'avoir participé en tout cas, et c'était super cool.
On reviendra évidemment sur votre ressenti et puis sur votre expérience pendant ce voyage. Alors, transition justement sur ce voyage, puisque avant d'arriver, de poser le pied à Calcutta, ça demande évidemment énormément de travail, que ce soit au niveau de la recherche de financement pour justement pouvoir faire cette action tous les ans. Et puis il y a aussi, de préparation, puisque c'est bien d'avoir l'argent, mais il faut aussi pouvoir y aller. Ça se passe comment au niveau de Solidar India, toute cette phase de préparation? C'est pareil aussi qui prend pas mal de temps, puisque il y a la période sur place, mais ça représente plusieurs mois de préparation en amont.
Déjà, on se dit qu'on va en Inde, donc c'est vraiment un pays inconnu. Donc je pense que c'est un pays super inconnu pour nous tous, tous les sept. Donc on s'est beaucoup renseigné pour savoir les modalités d'entrée dans ce pays-là, comment ça allait se passer.
Je pense que le plus dur, parce que nous, cette année, on est en deuxième année, mais on avait aussi un troisième année. Et du coup, les emplois du temps ne sont pas forcément les mêmes. Le premier truc à trouver, ça a été la date à laquelle partir, entre les examens, les rattrapages, etc. La date à laquelle partir. Après, une fois qu'on a trouvé la date, il faut gérer tout ce qui est visa, tout ce qui est...
Le logement.
Logement, ouais, c'est ça.
On a dû contacter, parce que du coup, on n'a pas... Là-bas, on a été logés, on devait se loger nous-mêmes, donc on a dû chercher des hôtels. On ne savait pas si on allait loger dans un hôtel, dans un Airbnb. Donc on a essayé de faire confiance, s'est tous mis tous les sept, on s'est assis et puis on a appelé pendant toute une après-midi les hôtels là-bas, on a recherché, on a essayé aussi de trouver des hôtels bon plan parce qu'on est quand même étudiant, donc on n'a pas beaucoup de sous à dépenser non plus. Donc tout ça à nos frais, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Ouais.
Et c'est surtout aussi la barrière de la langue, parce que on a beau parler peut-être pour certains de nous très bien anglais, l'accent indien est quand même un accent particulier. Alors en plus au téléphone, quand il n'y a pas le visuel, les gestes,
exactement,
etc., des fois... Du coup, des fois, on leur disait, on s'envoie un mail, ça va être plus simple.
On se parle par WhatsApp, ça va être mieux.
Puis bon, c'est vrai que c'est pas l'alphabet latin comme ça se passe ici en Europe. C'est encore, même dans l'image, une langue qui est vraiment très différente. Alors, par rapport à justement cette présentation du voyage et, les premiers pas, c'est la question que j'ai posée à l'ensemble des associations. Que ressentez-vous lorsque vous posez pour la première fois le pied sur le sol indien?
Alors,
ça se passe comment?
Alors, On arrive dans l'aéroport, c'est climatisé. Oh bah ça va, c'est tranquille. On sort de l'aéroport, une vague de chaleur, une vague de bruit, une vague de voitures, de taxis, peut-être une centaine de taxis, tout le monde qui vient vers toi. En plus, on est là-bas, ils voient pas beaucoup de personnes blanches comme nous, enfin d'occidentaux. Et du coup, tout le monde qui vient te voir, qui venez prendre mon taxi, venez prendre mon taxi, le marchandage, etc. Mais en plus de ça, je me rappelle, on a fait une escale à New Delhi, on sort de l'avion et il y a une personne indienne qui vient voir un des membres de l'association qui lui demande un selfie.
Ouais.
Parce qu'ils sont
beaucoup
ultra
de photos,
curieux.
Ouais.
on est des rockstars là-bas, mais les premières heures là-bas, je me rappelle.
C'était incroyable.
Ouais, les premières heures. Oui, c'était incroyable le choc entre chez nous et là-bas. Et au début, je me suis dit. Waouh, c'est du pays quoi. Il y a une petite journée d'adaptation.
Il en faut, ouais.
Ouais, d'adaptation parce que le mode de vie, la chaleur, les gens, les odeurs partout, c'est vraiment pas du tout. Il y a un décalage entre la France et l'Inde.
Et l'Inde, ouais.
Mais c'est.
Moi, j'ai trouvé ça impressionnant en fait. Donc, comme Théo l'a décrit, on sort de l'aéroport et donc la chaleur, donc déjà ça, le bruit. Énormément de bruit, c'est vrai qu'on n'est pas, enfin en France, on n'est pas habitué à autant de voitures qui klaxonnent autant. Donc là-bas, ils klaxonnent vraiment tout le temps. Donc le bruit, les gens qui viennent vers vous, c'était vraiment très impressionnant. Je me suis dit, un mois ici, d'accord, bon bah c'est parti, on y est, on est enfin là et voilà, on se lance. Et franchement, c'était les premières minutes, les premières heures en Inde, ça a été, on avait les yeux écarquillés, puis on regardait partout, c'était incroyable.
Finalement, on se plaindrait moins, j'allais dire, de nos petits problèmes de bouchons et de pollution en France.
Ah, le retour en France, on relativise, on revient avec une humilité.
Ah ouais,
vraiment, vraiment.
J'étais à deux doigts de marcher pieds nus, moi, en France. Tellement c'était propre. Donc, oui.
Ça, ce sont les premières impressions lorsque vous êtes arrivés. Comment se sont déroulées ensuite les semaines suivantes parce que beaucoup de travail, comme je l'ai dit pour Ortogo, c'est pas des vacances. Hein.
Non.
Il y a
non.
Énormément d'actions à mener sur place. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, histoire de synthétiser, malgré tout le travail que vous avez fourni, savoir ce qui a été fait, ce qui a été produit par vos soins pendant ces quelques semaines en Inde?
On a été dans les écoles que l'ONG Calcutta Rescue avec laquelle on travaille ont. Du coup, on a pu rencontrer les enfants des bidonvilles qui viennent à l'école. En plus d'école gouvernementale, ils viennent dans cette école de soutien, entre guillemets. On a pu les rencontrer, échanger avec eux. C'était vraiment génial. On sort de là, on est dans un état second de bien-être. Mais à côté de ça aussi, on a fait du médical. On était dans des cliniques, notamment une clinique de pansement. Qui se situe d'ailleurs juste à côté d'un chemin
bidonville.
De fer où il y a un bidonville sur le chemin de fer. Donc c'est assez impressionnant. Tu fais le pansement, il y a le train qui passe à toute allure à côté. C'est voilà. Et on voit des plaies.
Impressionnantes.
Ah ouais, impressionnantes.
Wow.
Vraiment impressionnantes.
En fait, on avait une sorte de planning en fait pour chaque semaine. Donc il y avait beaucoup d'activités proposées. Donc on tournait, on était par petits groupes vu qu'on était 7. Donc on se mettait par deux, donc deux groupes de deux, un groupe de trois. Et donc du coup, on a commencé par du coup de la street medicine. Donc en fait, l'ONG proposait des activités qu'on devait faire avec eux. Donc la première, c'était la street medicine. Donc c'était qu'on allait dans les bidonvilles avec une ambulance. Donc on allait dans les bidonvilles, on allait chercher les gens dans les bidonvilles. Parce qu'en en fait, en Inde, ils ont une notion de la santé assez différente.
Ils
veulent pas se soigner, c'est pas leur priorité. Du coup, c'est nous qui allons les chercher dans les bidonvilles avec l'ambulance. On les amène à l'ambulance, on voit ce qu'ils ont, on essaye de voir, on voit s'ils vont bien, on prend leur tension, leur constante vitale. On fait ça. Je sais qu'à côté, on allait dans des écoles comme la Ziteo. On jouait avec les enfants. On faisait aussi des fois des activités de prévention avec les enfants. Ensuite, on allait dans certaines cliniques. On faisait aussi des activités de prévention. Donc, on a fait de la prévention auprès des femmes, auprès des jeunes filles aussi, parce que là-bas, il y a certains sujets qui sont assez tabous que nous, on n'a pas en France. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est parti aussi dans une clinique comme la Ziteo à Nimtala, c'est ça ? Donc, à côté d'un bidonville où on a pu soigner des plaies. Donc, des gens qui venaient avec des plaies énormes. Donc, on a fait des pansements, on les allait nettoyer, etc. C'était ça chaque semaine, donc on avait un planning, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Chaque semaine, on faisait ça pendant 3 semaines à Calcutta. Donc on rappelle qu'on était pendant 3 semaines à Calcutta. Et le week-end, on avait du temps un petit peu libre pour aller un peu visiter la ville de Calcutta. C'était vraiment chargé, le soir on dormait assez tôt parce qu'on était crevés. Mais donc voilà, donc on a pu aider comme ça.
Justement, pour revenir et pour faire un lien par rapport à vos impressions, puisque vous aviez précisé tout à l'heure que c'était un peuple assez facile, du moins, du fait que, en effet, peu d'Occidentaux, en tout cas, là où vous étiez présent, on en voyait. Est-ce qu'au niveau médical, c'était un petit peu la même chose, ou est-ce que c'est un petit peu plus difficile lorsque l'on touche justement le côté un petit peu plus personnel par le médical d'entrer en contact avec la population? Parce que vous avez dit, donc, en milieu hospitalier, il y avait aussi le milieu street, du coup, directement en contact au sein, j'allais dire, des domiciles entre guillemets, puisque malheureusement, il y en a qui encore aujourd'hui se logent dans les bidonvilles. Est-ce que lorsque l'on parle santé, il y a toujours cette approche qui est facile, ou est-ce que du coup, il y a cette réserve qui se met en place?
C'est toujours un peu compliqué parce que de un, ils ne nous font pas forcément confiance parce qu'ils ne nous connaissent pas, et il y a forcément des choses taboues. Par exemple, moi qui suis un homme, je ne pouvais pas poser à des femmes des questions sur leur sexualité, sur les règles, etc. Et pareil pour Eva qui est une femme, elle ne pouvait pas
toucher les hommes, tout simplement.
Toucher les hommes, oui.
Je ne pouvais pas les toucher. Bah, comme on a dit, la santé, c'est vrai que ce n'est pas leur problème, leur souci numéro un, en fait. Mais quand on les approche, il faut une petite période, un petit temps de confiance. Ils ont besoin, je pense, au début d'avoir confiance en nous pour ensuite se laisser toucher, observer, consulter, en fait. C'est vrai qu'au début, comme l'a dit Théo, c'est vrai qu'ils sont impressionnés parce qu'ils ne voient pas beaucoup d'Occidentaux, donc ils nous regardent, ils nous prennent en photo, mais c'est toujours assez distant pour rentrer dans leur vie privée, même si on est à quand même ce statut, parce que là-bas, pour eux, on était des médecins, parce qu'ils voyaient des gens avec des masques et tout, accompagnés d'ambulances, donc pour eux, c'était des médecins. Ils ont pas ils font pas forcément confiance dès le début aux médecins. Il faut quand même parler un petit peu avec eux, leur sourire, et ensuite... Moi, j'ai trouvé qu'après, les Indiens s'ouvraient petit à petit, et c'était un peuple au final qui était très ouvert, contrairement à ce qu'on peut penser.
Mais un petit temps d'adaptation.
Un petit temps d'adaptation quand même.
Il faut dire aussi et le repréciser à nouveau que vous n'allez pas comme ça en vadrouille n'importe où, n'importe quand. C'est encadré aussi par une autre organisation, une ONG, justement, qui vous permet aussi de faire ce lien et qui fait que sans doute ça permet justement une affinité qui soit un petit peu plus rapide que si vous alliez tout simplement par vos propres moyens.
Exactement.
En fait, du coup, l'ONG qui on travaille, que je rappelle, s'appelle Calcutta Rescue. On était tout le temps avec eux parce que nous, on peut pas arriver en tant qu'étudiant en médecine, arriver, dire je vais sauver l'Inde, je vais sauver tout le monde là-bas. Eux, ils font le travail à l'année, ils sont toute l'année là-bas. Nous, on arrive pour les aider, surtout financièrement, mais aussi un peu humainement avec nos mains, nos connaissances, etc. Mais on n'était jamais seul avec un patient indien. Il y avait toujours quelqu'un de l'ONG, parce que eux, ils connaissent les gens de l'ONG, ils ont confiance en eux, et du coup, la confiance qu'ils ont en eux, ils se la reportent sur nous après le temps d'adaptation qu'on disait tout à l'heure.
C'est une ONG qui opère depuis vraiment très longtemps à Calcutta.
20 ans.
Elle a été fondée par le docteur Jack Prager.
D'ailleurs, il y a un film sur lui, il s'appelle Docteur Jack. C'est un Français qui l'a réalisé, je crois, et il est vraiment pas mal, ce
très
film.
Intéressant, ouais.
Et du coup, c'était les 20 ans de l'association en juillet, il n'y a pas longtemps. Et cette ONG est vraiment géniale parce que il y a beaucoup d'ONG après je sais pas parce qu'on travaille pas non plus avec beaucoup d'ONG, mais en tout cas celle-là est vraiment spéciale parce que elle cible ses actions sur les manquements du gouvernement sur la santé, sur l'éducation, sur les autres choses comme ça, et elle est vraiment très humaine. Ils sont pas que des bénévoles, ils ont aussi des salariés, ce qui est normal parce que il y a beaucoup d'Indiens qui travaillent pour l'ONG Calcutta Rescue, ils ont besoin de vivre, mais ils ont une reconnaissance. Par exemple, à la cérémonie d'anniversaire,
c'était très émouvant, c'était en
Bengali, donc on ne comprenait pas, mais on ressentait l'émotion des gens qui recevaient un prix pour leur dévouement, etc. C'est vrai, c'est une ONG très humaine, très humaine en fait.
On les remercie vraiment beaucoup de nous avoir accueillis parce que c'était vraiment, ils étaient super gentils avec nous, et puis même si on n'est qu'en deuxième année de médecine, c'est vrai qu'on a eu certaines connaissances théoriques, on a quand même pu les transmettre, et puis ils ont accepté avec facilité, nous poser même parfois des questions d'hygiène, est-ce que des fois le médecin nous regardait et nous demandait si ce qu'il faisait était bon, donc nous on disait bon on parle au médecin, on lui dit quoi faire, donc c'était très impressionnant.
Et puis ils sont très ils ont envie qu'on leur donne des conseils, qu'on leur donne nos remarques. Par exemple, dans la clinique, à la fin ils nous donnaient un carnet pour faire nos remarques, et ils nous disaient si écrivez,
donc ce qui ne va pas, ce qui va bien,
sur l'asepsie, sur l'hygiène, etc. Forcément il y a des choses qui vont pas parce que c'est l'Inde, etc. Ils n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous. Genre, quand on dit que c'est une clinique, c'est pas une clinique comme le CHU de Rouen. C'est juste un mur de briques, un rideau. C'est juste ça, la clinique. Mais c'est le plus propre qu'ils puissent avoir avec les moyens qu'ils ont en fait.
Alors j'imagine que ce travail avec cette ONG qui est naissante va perdurer dans le temps. J'imagine que vous allez à nouveau retravailler avec eux pour la saison prochaine.
Oui, bah du coup là, comme on l'avait précisé au début, l'association change de membre chaque année. Donc dans même pas 2 semaines, il me semble.
Le 25.
Nous allons céder notre association.
Ouais, on présente l'association.
Oui, on va la présenter
et après on fait des entretiens avec, parce qu'il y en a beaucoup qui postulent, une soixantaine je pense, et que 6 places.
Donc d'ici la fin du mois.
Mais
quoi.
En tout cas, la collaboration avec cette ONG, c'est la première année où on travaille avec cette ONG, parce qu'on a changé d'ONG, parce que je pense que c'est bien de se renouveler par rapport aux activités qu'on fait, par rapport à ce qu'on donne, etc. Et donc j'espère que cette collaboration va encore durer dans le temps, parce que c'est une très belle ONG, c'est les gens qui y travaillent sont très gentils, c'est des très bonnes personnes.
Oui.
Avant de conclure et de parler des actions à venir pour cette saison 2019-2020 et vos contacts, deux dernières questions. Alors concernant justement, il y a cette partie médicale qui est au cœur évidemment de l'action de Solidar India, mais pas que, puisque vous aidez aussi justement à la vie, on peut dire quotidienne d'une certaine manière, avec par exemple des toilettes ou encore dans les bidonvilles ou dans le système scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Du coup, on a financé, donc avec l'argent qu'on a pu récolter en France, on est arrivé en Inde et on nous a proposé différents projets à financer. Et comme on s'est renseigné sur l'Inde et les problèmes d'eau qu'il peut avoir dans les bidonvilles, on a décidé du coup de financer des toilettes dans certains bidonvilles qu'on a pu voir en fait. Et on a aussi financé la reconstruction d'une école. Donc on est parti dans une école qui, on a vu, était complètement insalubre, qui n'allait plus du tout. Et on s'est dit on finance ce projet-là. Donc grâce à l'argent, grâce aux dons des personnes, on a pu financer les toilettes et l'école.
Ouais, en fait cette année, la première réunion qu'on avait eue, c'était tous renseignés sur les problèmes qu'il y avait en Inde, etc. Et on a voulu cibler sur deux choses, sur l'éducation, parce que l'éducation leur permet de s'émanciper, entre guillemets, parce que il y a toujours les castes, etc. en Inde. Et l'éducation, parler anglais, ça leur permet de pouvoir avoir un métier, en fait de savoir faire quelque chose. Et ça, c'est bien. Et aussi l'eau, parce que...
C'est le gros problème majeur en Inde, c'est l'eau.
C'est un peu bête ce que je vais dire, mais l'eau, c'est la vie. Hein. Là-bas, ils mangent, ils font leur vaisselle, ils font la lessive dans la même eau.
Ouais, donc avoir des toilettes, c'est pareil. J'allais dire avoir l'eau potable de manière normale, même dans les toilettes.
Moi, je n'ai pas l'habitude de vérifier ou le robinet. L'eau est accessible à tout le monde, c'est potable. Alors qu'en Inde, il fallait vérifier à chaque fois. Ouais. En fait, il fallait même pas boire d'eau dehors. Ouais.
C'est que de l'eau en bouteille qu'on peut boire là-bas. Voilà. Pour les toilettes, surtout ils partagent les toilettes dans un bidonville, mais au moins, ils ont un endroit exprès pour ça.
Pour ça.
Et ça évite plein de maladies.
Oui, surtout.
Question que j'ai posée à Ortogo, que je vais vous poser également. Que retenez-vous justement de cette expérience, alors que ce soit tant au niveau de la préparation que de ces quelques semaines en Inde, et puis j'allais dire aussi le retour, puisque évidemment on a plein d'images dans la tête, mais plein de souvenirs qui vont rester gravés aussi.
Déjà, c'était la première fois que je m'engageais dans une association, et là, humanitaire. Donc, ça apprend notamment, du coup, s'organiser soi-même entre ses études, sa vie personnelle et l'association. Ça aussi apprend à donner de soi, et ça apporte, notamment sur le retour, une humilité. Après, quand on rentre, on se dit, ce problème-là, c'est rien du tout, parce qu'on relativise par rapport à d'autres problèmes qu'il y a dans le monde, par exemple, après. Bon, après, c'est sûr qu'on ne veut pas faire les moralisateurs, en mode, tu te plains de ça, mais pense aux autres. Parce que chacun a ses problèmes, mais ça permet d'avoir un recul. Parce que, après, moi personnellement, quand je suis rentré, genre la semaine pour sortir et boire un verre avec ses amis, tout ça, tu y penses encore et on se dit, quand même quoi.
Genre, on est heureux.
On est favorisé, on est vraiment favorisé.
Moi aussi, c'était la première fois que je m'engageais dans une association humanitaire. J'ai toujours voulu en faire, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même. On avait un objectif commun, donc aller en Inde, financer, trouver de l'argent. Donc tout au long de l'année, j'avais un bon objectif et surtout pas pour moi. Ça m'a fait penser à autre chose que moi-même. C'est vrai, comme l'a dit Théo, on pense leur donner beaucoup, mais je pense qu'ils nous donnent énormément eux, en fait.
On reçoit plus que l'on donne.
Et moi, je suis rentrée aussi avec, comme il a dit, ça donne beaucoup d'humilité. J'étais plutôt positive sur mon mode de vie, mais bon, c'est vrai qu'on a quand même droit de se plaindre quand même. On va pas non plus arrêter. Hein. On est français, on n'oublie pas.
Mais d'une autre manière, en tout cas.
Mais d'une autre manière, voilà.
Oui.
En tout cas, ça a été une aventure vraiment exceptionnelle. J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai vu que, en fait, le monde est vaste et grand. et qu'il y a d'autres problèmes un peu partout et qu'il n'y a pas que la France, quoi.
Et puis même, ça nous apprend aussi, parce que moi, personnellement, j'avais jamais vécu en société avec 6 autres personnes, H24 ensemble, pendant
c'est
un
vrai.
Mois.
On n'oublie pas Corentin, Mania, Alizé, Quentin, Lucas.
Ouais, qui font aussi partie de l'association.
Ouais. Et donc, voilà, on leur fait de gros bisous. Et ça a été vraiment trop bien d'être avec eux pendant ce mois-là.
Ouais.
Et donc voilà, donc plein de souvenirs, plein de photos aussi, on a fait plein de photos, plein de vidéos, d'ailleurs on sortira une vidéo de présentation.
Ouais, on la postera sur nos réseaux sociaux, sur YouTube,
sur
etc.
YouTube, Instagram,
très belles
Facebook,
images, très belles images.
Donc ce serait cool d'aller la voir,
ouais.
Donc ça sortira bientôt.
Pour conclure cette interview, on va évidemment donner les différents contacts pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur Solidaire India Calcutta, et quelles sont justement les prochaines actions pour les étudiants qui sont présents ici au sein de cette UFR Santé d'ici, j'allais dire, là, les prochaines semaines, d'ici la fin de ce premier semestre.
Alors, pour les actions, déjà, le 25 septembre, il y a la présentation de notre association pour les deuxièmes années de médecine. C'est là qu'ils vont venir découvrir et s'inscrire pour passer les entretiens pour qu'on leur passe la main, malheureusement, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Du coup, ce sera la nouvelle équipe qui va le faire, mais c'est déjà prévu. Il y a une vente de gâteaux en novembre, je crois, ou en octobre, je ne sais plus exactement la date.
Mi-octobre, il me semble.
Une vente de gâteaux à la fac de médecine de Rouen. Je peux même déjà vous dire qu'en mai de l'année prochaine, il y a une bol de riz à un collège à Melun.
Donc voilà, donc de toute façon, toutes les infos seront mises sur nos pages, notre page Facebook, donc Solidaire India Calcutta. Donc c'est un compte, hein. Faut demander en ami pour voir toutes les infos. Donc Facebook Solidaire India Calcutta, on a aussi Instagram. Solidaire India. C'est les deux principaux, nos deux principaux
réseaux sociaux qu'on a. Et n'hésitez pas à envoyer un message, on vous répondra avec plaisir.
Ouais. Donc ce sera plus nous, ce sera la nouvelle équipe, mais en tout cas, je pense qu'ils vous répondront aussi, du coup.
En tout cas, merci beaucoup, Eva, d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup, Théo.
Merci à vous.
Et merci donc à Solidaire India Calcutta d'être passé au micro de Campus Mag pour cette nouvelle saison universitaire.
Les enfants, un peu de radio ?
Oui.
Vous voulez écouter de la musique ?
Ok.
Vous écoutez HDR 99.1, le mix de toutes les cultures.
C'est déjà la fin de Campus Mag en ce mercredi 4 décembre. Un grand merci aux membres des associations Ortogo et Solidaire India d'avoir accepté notre invitation lors de ce plateau radio qui était proposé au cœur de l'UFR Santé lors de cette rentrée culturelle 2019. On se retrouve donc dès demain, jeudi à 18h, pour la deuxième et dernière partie de cette spéciale assaut humanitaire à l'UFR Santé. Par avance, bon courage à toutes celles et ceux qui iront au travail ou qui prendront la route demain avec cette journée de grève et de manifestations interprofessionnelles qui se dérouleront un peu partout en France ce jeudi. Et bon courage évidemment aussi à toutes celles et ceux qui battront le pavé à l'occasion de ce mouvement social et qui descendront dans la rue pour la défense des droits et des acquis sociaux. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, ciao.